Amis de Radio Occitanie et de la poésie, bonjour. Les poètes, une émission de Christian Saint-Paul et Claude Bretin. Alors, avant de parler du poète de la semaine, je voudrais faire une annonce pour ne pas être pris de court par le temps. Je vais commencer donc par faire cette annonce. Il s'agit de mettre le projecteur sur les éditions, les bonnes éditions de poésie, qui sont nombreuses, quoi que l'on en dise, dans notre pays. Cette fois-ci, ce sera autour de Sylvaine Arabeau, qui dirige les éditions Alcyone, en Vendée, les éditions Alcyone, et qui publie de la poésie dans sa collection Churia. C'est un premier livre dont je vais vous signaler. Il s'agit du livre de Pierre Thibault, Épure du cri, avec une préface de Raymond Jean. Alors, ce nouveau livre de poésie, nous dit Pierre Thibault lui-même, Épure du cri, vient après sa publication précédente qui s'appelait Jardin des voix, qui avait été publiée en 2022, et sa avant-dernière publication qui s'appelait Vent nomade en 2024, toujours aux éditions Alcyone. La préface de Raymond Jean témoigne que ce qui pouvait n'être qu'un cri devient, par le travail d'une écriture inlassablement épurée, éminence continue, et qu'au secret de ce calme maîtrisé, quelque chose veille, sans doute le désir. Cherchant à ouvrir les portes du regard vers le côté caché des choses, le livre voudrait créer cette Stimmung, chère aux romantiques allemands, qui est une atmosphère à la fois affective et musicale, où se fait entendre un chant qui est indissociable de toute poésie. Voilà ce que nous dit Pierre Thibault lui-même, donc, sur ce livre. Et je crois qu'il n'y a pas peut-être mieux placé que l'auteur lui-même pour pouvoir dire un petit peu ce qu'il a voulu exprimer dans ce beau recueil, Épure du cri. Je vais vous lire ce petit avant-propos de Raymond Jean, qui est très court, donc lui sert de préface. Il est une façon de toucher à la feuille, à la branche, à l'herbe, au givre, au jour, à la nuit qui se dénude, à l'oiseau, à l'insecte, au sable, qui suppose beaucoup de précision et beaucoup de pudeur. Même s'il existe, aux yeux de Pierre Thibault, une arrogance du bleu, il le cite là, cette arrogance-là pourrait être un cri. Elle devient, par le travail d'une écriture inlassablement épurée, éminence contenue, nœud, trace, entaille, comme eût peut-être aimé le dire René Char. Entre croisement de l'un au multiple. Mais au secret de ce calme maîtrisé, quelque chose veille, sans doute le désir. Il est à l'affût, dans le dessin d'un lit, d'une fenêtre, la courbe d'une épaule, le contour d'une lèvre, l'amour comme il cite un vers de Pierre Thibault, l'amour comme sablier qui ne mesure que le non-temps. Le non-temps. Quelque chose tremble ici sans cesse entre la peinture et l'écriture, une voix particulièrement discrète et juste. Signé Raymond Jean. Cette voix particulièrement discrète et juste, qui est un peu aussi ce qui peut caractériser une certaine poésie contemporaine, hein, qui est multiple, hein, comme elle a toujours été, la poésie. Mais il y a cet élan vers cette poésie discrète, ramassée, concentrée, assez métaphysique. Poésie. Quand la parole s'approchant en tremblant du silence, tente de se faire musique au jardin d'Éden, pour mieux chanter à contre-nuit le pouvoir donné à l'instant de s'illimiter. Là, il y a une citation d'Héraclite qui est la suivante. Le maître dont l'oracle est à Delphes ne dit ni ne dissimule, il fait signe. Tes mots, issus de l'oubli, non pour dire mais pour faire signe. Paroles de lavandir à peine taillées, offertes au vent. Leur vérité, dans les lignes de fuite du paysage, creusant l'énigme au lieu même du sens. Et puis, il a écrit ceci, à Boulogne, en Vendée. Ta voix est frange d'étranges lieux couleurs, de bleuets d'enfance. Parfois une note y résonne, plus forte que les autres. Dernier cri d'un oiseau dans le jardin où fument les arbres, peut-être aussi la porcelaine de la tasse qui refroidit. Tu attends que les fenêtres délivrent le jour invisible, des mots, bruit d'eau des bouches qui se penchent sur ton lit. Toute une vie a questionné la même terre, dans le silence qui brûle, le cœur. Les mêmes chemins, sans cesse refaits, nulle part en exil, car toi-même l'exil. Dans le fol espoir de retenir la dernière aube auprès du lit. Nous sommes d'ici, mais aussi d'ailleurs. L'exil est intérieur pour qui sait rêver. Mon rêve me porte parfois vers ces matins fous où chacun buvait l'autre goulûment et dont nous sortions éblouis, cœur en fait, corps apaisé. Demain, il suffirait pour la mer d'une goutte d'eau, pour la prairie d'un brin d'herbe, pour que le ciel s'éclate à nouveau et que l'éternité s'ajuste à nos corps comme un sourire à nos lèvres. Vous voyez, ce ton d'éternité s'ajuste à nos corps comme un sourire à nos lèvres. Il y a là vraiment une poésie qui est une poésie métaphysique, hein, complètement, hein. L'éternité. Touche pour un portrait. Il confondait oiseaux et cœur, feu et frelons, braise et rivière, toit et raison du vent, inventant pour chaque chose son double, corps second allégeant le premier, ombre adoucissant l'inconnaissable. L'océan lui dessinait un lieu, la forêt une mémoire, dans la montagne s'affûtaient ses pensées. Il oubliait de mourir, dans le duo de la colline et du soleil couchant. Quand il émigra dans l'alphabet, un vent violent s'éleva. On eût dit, l'écriture est devenue folle du pic vert. Alors il parle aussi du lieu et il dit que l'exil, c'est aussi un exil intérieur. Je pense au dernier livre d'Alain Vircondelet, un livre qu'il faut absolument lire sur l'Algérie. et nos pleurs seront des chants, j'en reparlerai dans une émission prochainement. Alain Vicourdillet qui dit « Je hais la violence des migrations, l'obsession d'aller voir ailleurs si c'est mieux, l'esprit de découverte, quand tout, chez soi et en soi, est encore à découvrir, à renaître, à réinventer. » Voilà. Et c'est cette réinvention du chez soi et en soi qui constitue en définitive les épures du cri de Pierre Thibault. Poursuivons la lecture de Épures du cri. Tout est écriture, et face à la fenêtre, tu lis à ciel ouvert, dans l'alphabet bleu ponctué d'oiseaux, leurs parenthèses furtives, brouillant soudain le texte, trace des lézardes, du proche effondrement. Voilà. Alors toujours quand même cette idée, hein, le proche effondrement, cette idée que ben, il faut avoir le désir de profiter du chez soi et en soi, plutôt que d'aller se précipiter vers l'ailleurs, puisque en définitive, on est proche de l'effondrement. Les premiers rayons du jour allument les racines des montagnes. Il nous faut éroder les pierres du temps, débusquer les arbres jamais nés, comme si l'écriture souterraine s'offrait à nous soudain lisible aux tables nues de la voix. La montagne s'est découpée peu à peu entre deux nuages, comme le pain sur la table d'autrefois, où se délitent maintenant neiges et jours. La lampe des mots te réchauffe encore quand la nuit en toi marche à pas d'enfant. Voilà, toujours cette intériorité qui s'allie au quotidien à la perception de ce qui nous entoure. Hein, la montagne s'est découpée, des espèces de célébrations, célébration de ce qu'il voit de la nature en forêt. Tu apprends la langue des oiseaux pour mieux parler à toi-même. C'est peut-être là que Sénèque avait appris à séparer les choses du bruit qu'elles font. Dans le silence des racines, la branche se souvient du chant de l'oiseau qui vient de la quitter. Dans les brèches de lumière, issues du vitrail et des feuillages, elle ose se donner au Dieu des surprises. Ô merveille, disait Bernanos, qu'on puisse faire présent de ce qu'on ne possède pas soi-même, ô doux miracle de nos mains vides. Paradoxe de l'écriture, qui ne peut approcher les choses qu'au moment où elle échoue à les dire. Parabole du mystique, d'autant plus proche de son Dieu qu'il en accepte l'éloignement, le retrait sans fin. Longue migration de l'idole qui s'épuise dans le visible à l'icône, toujours à l'extrême du regard à jamais tu. Et puis pour finir, trace. Éphémère mon pas sur le sable, éphémère la douceur de ton sourire, éphémère l'empreinte laissée de mon passage. Mes mots s'effacent sous les coups de gomme de mes rêves, eau sombrée. Et la vague qui se perd dans le sable, qui s'estompe en oubli sur tes lèvres, qui délivre goutte à goutte, voix absente, le secret de ta mort commencée. Aux parois intérieures des choses, tu te heurtes parfois, ton regard étonné d'être déjà mort. Tes gestes surprenant soudain leur face cassée, ton corps bâti de cris oubliés, quand ne reste de tes os que les arêtes vives de tant de désirs, douleurs javelées aux failles du jour. Et pour finir, chose. Disparaissant sous l'infini de tes mondes gigognes, tu me découvres. tes formes passées, les noms qui te fixèrent en vain, je te cherche sans antécédent ni conséquent, tu n'es qu'une longue mémoire, porte qui grince sous le poids du passé, qui bat au vent du futur. Par les mots, je prends ton parti, devenant la vitre qui me livre au chien de la foudre. En toi, je m'émiette, pain devenu mi de ma mort. Voilà, à lire donc ce nouveau livre de poésie, Épure du cri, de Pierre Thibault, aux éditions Alcyone, collection Suria. Ce beau livre vous coûtera 21 €. Vous aurez toutes les références rappelées de ce livre sur notre site lespoètes.site, à la rubrique pour écouter les émissions où vous pourrez avoir les références donc, de tous les ouvrages dont on a parlé, mais également, si vous le désirez, réécouter ces textes. Alors, la semaine dernière, j'ai parlé d'un livre d'Elisabeth Aragon, une poète de Toulouse, que nous saluons. Elisabeth Aragon qui attirait l'attention de tous sur le fait que il ne fallait pas oublier ce qui avait disparu. Parce que c'est en les oubliant que l'on projette véritablement la mort sur eux. J'ai appris il y a deux jours par notre ami Jean-Luc Pouliquen, poète et essayiste magnifique qui vit hier, j'ai appris la disparition de Marcel Migosi, un de ses compatriotes puisque il habite Toulon. Marcel Migosi, nous en avons parlé ici depuis une bonne vingtaine d'années et nous rendions compte chaque fois de ces dernières publications. Il fait partie de cette génération de 1939, la génération de Michel Cozem, de bien d'autres, et je n'ai pas réalisé que peut-être cette génération en définitive, puisque je n'en suis pas très loin, moi, de cette génération, à 10 ans près, même pas 9 ans près. Cette génération est en train de disparaître. Marcel Migosi, c'était un poète admirable, je vais vous lire ses œuvres. Mais ce n'était pas qu'un poète admirable. C'était un homme admirable. Et je ne devrais pas dire ça à ce micro, comme pour reprendre des élucubrations de l'ancien président de la République. Mais c'est assez rare, les poètes qui sont à la fois des poètes admirables et puis peut-être aussi dans la vie des hommes admirables, en tout cas exemplaires de quelque chose. Marcel Migosi est né en 1939 d'une famille corse. Il est né à Toulon, dans un milieu très modeste, et immédiatement il est né pendant cette période de la guerre qui sera une période terrible pour la famille Migosi. Il n'oubliera jamais cette période-là, ce qu'il a vécu, son enfance pauvre. Il ne l'oubliera jamais. Il fera des études, il deviendra enseignant, instituteur, et il sera fidèle à lui-même, fidèle à ce grand élan spirituel qui est le sien, qui a toujours été le sien, qui l'a porté à avoir une vie d'artiste d'abord, avant tout. Mais pas que. C'était quelqu'un qui était impliqué dans la vie quotidienne Il faisait du militantisme syndical, par exemple, Marcel Migouzi. Il était intéressé par le quotidien de ses proches. Et d'ailleurs, ce quotidien, en 2014, il m'avait adressé un petit fascicule, de ces fascicules dont les éditions La Porte ont le secret, merveilleuses éditions, ces éditions La Porte, Yves Perrine, hein, qui est allant. L-A-O-N, hein. Ce petit recueil s'appelait Un pied toujours dans mon quartier. Marcel Migouzi donc disait à quel point il était resté ce petit enfant du quartier pauvre de Toulon. Marcel Migouzi qui a une œuvre importante, il a publié par exemple aux éditions Petra, qui sont des éditions corses, dont on ne parle peut-être pas assez souvent. Il y a quelques années que je n'ai pas cité ces éditions, les éditions Petra. Il avait publié là Des jours en s'en allant. Je vais vous lire des extraits de cela. Puis aux éditions Villa Cisneros, il avait publié Écaillure des jours. C'était ses carnets de 2002 à 2009. Et enfin aux excellentes, excellentissimes éditions Tarabuste. Nous saluons ici Germel, hein, qui anime ça avec beaucoup de brio. Il avait publié Rouge convalescent, suivi de L'invisible donation. L'émission Le Poète a rendu compte de tous ces livres. Mais aujourd'hui, il importe de pouvoir redonner la vie à Marcel Migouzi. Il ne faut pas oublier. Il faut leur redonner. Il faut leur redonner la parole. Et les poètes, ils ont l'immortalité. Un poète ne meurt jamais, à condition que l'on continue à parler de lui et à le lire. Là, il devient immortel, uniquement si nous continuons à le lire. Alors je vais lire d'abord de Marcel Migouzi, je vais lire Des jours en s'en allant, puisque maintenant Marcel Migouzi s'en est allé. Il m'avait écrit sur ce livre, cher Christian, voici quelques pages entre ombres et lueurs. Très amicalement, Marcel. Entre ombres et lueurs. C'est peut-être ça, dans le fond, la vie de ce poète. Entre ombres. Les ombres étant celles qu'il voyait de la vie. Parce que ce qu'on aperçoit quand même de la vie, et lui, en ayant eu cette expérience de la Seconde Guerre mondiale, en ayant eu cette expérience de la vie difficile, du combat permanent qu'il a mené pour les autres aussi, pour ceux qui travaillaient comme lui, pour le combat syndical. Et puis dans la marche du monde, on imagine quand même combien Marcel Migouzi devait réagir dans toutes ces drames, dans toutes ces catastrophes que nous voyons, et qui ne sont pas que des catastrophes naturelles, qui sont des catastrophes nées de l'imbécilité irrémédiable, semble-t-il, de la bêtise humaine. Alors voilà ce qu'il disait dans Des jours en s'en allant, pierres écrites, l'oiseau des runes. Il avait commencé, je fais une petite parenthèse, Marcel Migouzi, il était amené en 1939, donc il avait connu la belle période des années 60 en poésie. Pour moi, ce sont quand même les plus belles années. Je pense que nous avons perdu beaucoup de ce qui s'est passé dans les années 60. Par exemple, avec la revue Action Poétique, où il avait fait paraître Le Fond des Jours, Automne. Puis avec Pierre-Jean Oswald, ça c'était à la fin des années 60. Hein. Pierre-Jean Oswald, en 1969, il avait fait paraître Poèmes domestiques. Et puis, un peu plus tard, chez Guy Chambellan, merveilleux poète aussi qui accueillait les autres et qui faisait beaucoup pour les autres. Guy Chambellan, il avait publié chez lui donc Marcel Mingozzi jusqu'à la terre. Et puis il avait eu le prix Jean Malrieux, comme notre ami Michel Baglin. Il avait eu le prix Jean Malrieux beaucoup plus tard, en 1985, avec Juillet, qui avait été publié à Voyage Sud, Juillet. Et puis il avait eu aussi le prix Antonin Artaud, 10 ans après, On aura vécu. C'était le titre de son recueil qu'il avait présenté Antonin, au prix Antonin Artaud, qui avait été décerné à Rodez en 1995, je m'en souviens très bien, aux éditions Thélo Martius. Et puis, il avait publié une revue qui nous est chère, la revue Encre Vive, parce que c'est la revue de notre région, et c'était la revue de notre ami Michel Cosem, qui avait le même âge que Marcel Mingozzi, qui l'a précédé de peu, malheureusement. Il avait publié Encre Vive à l'école des garçons de Rivière-Neuve. À l'école des garçons de Rivière-Neuve, c'est magnifique, ça. Voilà. Et beaucoup, beaucoup de choses. Une œuvre donc très importante. Il n'avait pas arrêté en définitive de publier. Encre Vive, signalons aussi Temps Mort, hein, j'avais oublié, plus récemment, en 2015. Je ne sais pas s'il reste encore des exemplaires. Et puis d'autres étaient plus au nord. Voilà, d'autres étaient plus au nord. Encre Vive, toujours. Ça a été l'année avant, 2014. Et puis, chez Tarabuste, il avait publié Dernier Témoin en 2012. Et puis, aux éditions de l'Atlantique, donc, qui étaient les anciennes, qui ont été remplacées par les éditions Alcyone, il avait publié, donc chez Sylvain Arabeau, que nous avons cité tout à l'heure, il avait publié La fenêtre sans rideau. Voilà. Une œuvre considérable, Marcel Mingozzi. J'espère que nous le sauvegarderons de l'oubli, Marcel Mingozzi. Il devrait être comme ça, comment dirais-je, d'utilité publique de sauver ces poètes. On se révolte contre un rien, de poussière programmée. Déjà l'ombre émiettée d'un vol des tourneaux crible le silence de marbre pur. Bref, une éternité de fleurs, et plus éphémère que sa présence fanée dans le composteur du jardin. C'est curieux, mais je trouve qu'il y a un rapprochement avec l'écriture que je viens de lire de Pierre Thibault, c'est-à-dire à la fois une inspiration de la nature et du réel, quoi, du quotidien, de ce qu'il a sous les yeux. Pourquoi aller bien loin, puisque on a tout en définitive sous la fenêtre. Et en même temps, cette élévation extraordinaire que permet l'écriture, donc le mot, c'est-à-dire la réflexion, la conscience et le désir. Le désir par le langage, par la langue, de s'élever, et en s'élevant, bien sûr, d'aller vers l'autre. Déjà, au col de la vieillesse, les suintements âcres, déjà la chair sans héritière, l'oubli de son identité, le « déjà » que l'on tait. Espérons que le corps refusera au sang de célébrer la rupture. Bon, poème prémonitoire, hein, où il n'a pas peur de ce bilan, de faire le constat. Le constat que le corps nous trahit un peu avec le temps. Un ciel laqué de bleu stupide a été vidé. Rien qu'au fond de nous, ce vide halluciné, lieu d'aisance pour la dernière utopie, mieux vaut se taire, se terrer. Alors il pose la question, est-ce que dans le fond, il ne faudrait pas faire silence, mais silence surtout, ce vide halluciné, lieu d'aisance pour la dernière utopie. Voilà. Donc une poésie totalement métaphysique. Voici qu'il pleut, ces gouttes d'inquiétante lueur, une fatigue, une brûlure, estomac, dos, etc. Désobéir à son corps, sauf à celui de son enfance, serait vertu? Comment élever seule sa vie? Jusqu'où? Pour l'achever en gestes écrits? Qui donc a réservé le trou? Le mur de schiste bleu s'ébroue dans le jardin. Peut-on croire à demain? Ah oui, c'est des poèmes durs, ça. C'est des poèmes durs, mais vous voyez, je parlais tout à l'heure d'élévation, j'avais raison. Parce que lui-même, il dit, comment élever seul sa vie? Voilà. C'est ce sentiment, et cette volonté de vouloir élever sa vie qui fait peut-être dans l'œuvre de l'homme. D'ici, télé en noir, douleur et blanc d'ennui. Il a neigé sur le jardin, trop peu. Déjà, le toit a perdu sa blancheur, l'ingrat. Petit soleil dans le lilas et rouge-gorge, otage d'une boule de graisse. D'ici, on ne les entend plus, les sans-logis. Rougeur aux yeux, caverne froide. Ne pas conclure sur ces mots. Le silence serait coupable. Et nul n'en veut au rouge-gorge que l'orange de son destin ne puisse être partagé. Voilà. Alors il parle de ces boules de graisse que l'on achète et que l'on pend aux arbres, hein, l'hiver pour que les oiseaux puissent se nourrir, ce qu'ils devaient faire. Hein. Et puis il y a cette idée du partage, hein, que l'orange de son destin ne puisse être partagé. Voilà. Un destin, ça se partage. Pourtant il n'y a pas plus solitaire qu'un destin. Soir de neige, coussant d'air. La lumière en sourdine. On y dormirait à l'abri, dans les bras de l'enfance. La neige ne serait plus jaune, sous les phares d'une ambulance. Voilà, donc une scène du quotidien, hein, l'ambulance qui passe sur la neige avec ses phares. Et puis, il y a toujours en filigrane dans l'œuvre de Marcel Migosi, il y a cette idée de l'enfance. J'y reviendrai sur l'enfance. Mais je crois qu'elle le hante en permanence, d'une façon consciente, inconsciente. Elle est toujours là, cette enfance de Marcel Migosi. Reste embouée de neige. Le trottoir fait le mort sans terre. Ça cartonne sur des coucheurs dans le fond des autos parquées. Ne pas conclure sur ces mots. Le silence serait coupable. Je répète. Autrefois déplié l'hiver. La couverture pour l'enfant. Ses doigts se désengourdissaient parmi des châtaignes rôties. Dans des verres à moutarde, les vieux parents sacraient le vin chaud. Et la vie n'était pas conduite aux urgences. Voilà, donc la vie d'autrefois, toujours l'enfance. Hein, il voit ses vieux parents hein, dans des pauvres verres à moutarde. Donc il récupérait les verres à moutarde, évidemment, pour s'en servir. Et il buvait le vin chaud. Avec des châtaignes, Voilà, ce qu'on faisait dans l'âtre autrefois, j'ai bien connu ça, par exemple en Ariège. Un jour tes jambes s'aniront, seules et faibles, vieilles d'os, la douleur immobile en elles. Tes jambes s'aniront dans la terre trouée définitivement. Dernière promenade noire. Pour tes os, ne t'inquiète pas. Ils n'iront pas bien loin sans toi. Dans peu de temps, muets, les mottes recouvriront même tes mots, écrits de ton vivant. Mais qui parle de perdre ? Bon, c'est un poème terrible quand on le lit aujourd'hui, bien sûr, puisque, eh bien, ses jambes s'en sont allées dans la terre trouée définitivement. Il y avait là, donc, dans ce poème, quelque chose qui était de l'ordre d'une lucidité un peu, j'allais dire, morbide. Mais non, une lucidité qui est égale à ce courage quand même qu'il avait, Marcel Mégozy, de pouvoir regarder un peu la mort en face. C'est pas donné à tout le monde d'avoir ce regard franc comme ça sur l'avenir. Mais qui parle de perdre. Donc voilà, la mort n'est peut-être pas, c'est pas la perte. C'est pas la perte, puisque il y a ce qui sera sauvé, ce sont les poèmes. Les poèmes de Marcel Mégozy, ces poèmes où il dit ce qu'est la vie, ce qu'est notre vie, ce que nous sommes. Rhumatisme déjà, os en rocher, le sang passant vieux, le genou est un témoin à charge. Mais au moment de la condamnation, laquelle et quand viendra le temps des retrouvailles? Enfance au bord du bac à sable non souillé par l'âge, amour au bord des sacrifices. Voilà. Alors, on retrouve cette enfance. Et dans les derniers moments, il dit ce qui va se passer, c'est que, eh bien, continuera. Quand tout sera fini, ben je vais retrouver mon enfance. Voilà. Il y a cette inspiration aux retrouvailles donc de l'enfance. L'enfance avait tout ce qu'elle comporte, bien entendu, hein. C'est-à-dire ses parents et toute une douceur qui est la douceur même de l'enfance, même si l'enfance de Marcel Mégozy a été rugueuse. Vérité matinale. Dans l'angle mort de ton œil droit, des zébrures te vieillissent. Dans le rétro de ton passé, tu peux toujours leur rappeler que tu vécus sans eux et vu sans eux ton visage d'enfant. Ce matin, l'angle reste mort. Et tu redeviendrais visible. Tu ne changerais pas ta vie. Tu ne pourrais plus faire appel à ton ange terrestre, ni à l'amant, ton double vieux, si ordinaire, et désormais, sursitaire, éternellement. Je vais peut-être finir avec ce recueil, pour pouvoir parler d'autres. Le chemin qui coudoie des ronces va se perdre dans un corps, aimé, pour ses lèvres à feu. Brasier ou baiser, deux impasses, ne pas tarder. Son gris, les toits déjà, les collines perdues sous la dalle, pourtant, jamais douté des liens de chair, jamais douté de la vie page. Un frais bouquet de mimosa, s'il fane un jour, vieil or, bonheur sera d'avoir fleuri, de s'être offert un dernier beau bouquet d'adieu. Voilà, terrible de lire ça aujourd'hui. De s'être offert un dernier beau bouquet d'adieu. Lui-même, donc, s'est offert ce dernier bouquet d'adieu. Voilà. Marcel Migosi, dont Des jours en s'en allant, très beau recueil que vous trouverez aux éditions Petra, un recueil qui vous coûtera que 12 euros. Marcel Migosi, donc je vous rappelle qu'il était né à Toulon. Il est né à Toulon dans une rue qui porte un beau nom, c'est la rue de la Fraternité. Voilà. Et il restera cette ville et il lui restera toujours fidèle. Tellement fidèle que je voudrais lire dans les dernières minutes, les dernières 10 minutes qui nous restent, je voudrais lire ce petit recueil-là de « Un pied toujours dans mon quartier » de Marcel Migosi, qui m'a envoyé en 2014. « Corps, visage disparu, à mes copains, quartier du pont de bois. » Alors, il avait mis en exergue quelques lignes du philosophe espagnol José Ortega y Gasset. « Je suis simplement un homme qui aime le passé, aimer le passé, c'est se réjouir qu'il soit en effet le passé, que les choses s'élèvent à la vie pure et essentielle, qu'elles acquièrent dans la réminiscence. » Voilà. Et donc tout ce recueil est en fait un recueil de réminiscence. Mais dans le fond, chaque poème n'est-il pas, puisque à partir du moment où on l'écrit, ben le temps est passé, chaque poème n'est-il pas une œuvre de réminiscence ? Ah ! La dame en robe de chambre bleue, belle voisine, qui passait charnue le pont matinal vers la boulangerie encore tiède sous la laine. Et nous, songeurs aux lèvres sèches d'adolescents, et elle, nous regardant sans désir. Et nous, caressant des yeux la laine bleue, la dame dite, est-elle morte sans sa robe ? Et nous, sans rêve maintenant, sommes si vieux. Et la jeune fille au pull de laine écrue, à grosses mailles rouges, qui soulevait une poitrine sous le pont du chemin de fer, dans les vierges années 50. Les trains sifflaient alors ses seins si invisiblement réels. Qu'est-elle devenue ? Depuis, loin des jours ronds, les trains, sous la laine mitée, s'étouffent. Ah, chez Fortuna, l'épicière du quartier. Forte de corps sous le tablier, avec toujours le mot pour commercer en verve. Son visage tourné au sourire, pourtant, c'était une Italienne à cran, avec l'avenir de sa fille handicapée par un gentil cerveau. Personne n'osait la moquer. Dans les trois magasins, les mères de midi s'inquiéter de la vie, 1946, quelle époque ! Qui pense à toi ce jour, bonne épicière, qui faisait crédit aux femmes des ouvriers ? Voilà, alors bon, c'est la fin des années 40. Une époque où il n'y avait pas les grands magasins, les supermarchés, où On achetait ses aliments, ce qu'il fallait pour faire le dîner, le déjeuner. On l'achetait dans des épiceries. L'épicerie que tenaient par exemple les parents d'Annie Ernaux. Voilà. Ceux qui n'ont pas connu ces années-là, la fin des années 40, les années 50 aussi, ne savent pas ce que c'était que le rôle de l'épicière, cette épicière donc, qui faisait crédit aux femmes des ouvriers, ce qui était fréquent à l'époque, fréquent. Et l'épicier avait un rôle social. Hein ? Les supermarchés n'auront pas de rôle social, c'est fini ça. Et la couturière, assise sous la fenêtre, à qui maman, la pauvre, offrait café, biscuit au fond, d'une boîte jolie comme un cœur, le sien. Affaire plus colorée que le sang, crachée quand jeune mère, mais tais-toi. J'en croquais un, aussi, doré que le dé, sur mes chaussettes trouées. Je regrette ma jeunesse vécue dans la pauvreté, disait la couturière en levant des yeux noirs à lueur. Pauvre vieil homme, silencieux, seul, à se chauffer sur un banc de la place, le corps dans les automnes plus respectueux que les garnements du quartier, moqueur de ses souliers de rien, de sa veste de peu, cruelle, mine de diable, qui s'approchait, le défiant. Il se levait, tendait le poing, le rire contre sa douleur. Quand est-il mort? Dans quelle chambre de l'oubli? Le temps l'aura vengé, c'est sûr. Avoir nos corps d'ici et maintenant vieillis. Voilà. Donc, c'est extraordinaire quand même le talent de Marcel Migosi. J'espère que vraiment il y aura une anthologie qui reprendra tout ça. Que Gallimard finira par faire une belle anthologie de Marcel Migosi, qu'il passe vraiment pour un poète important du XXe et XXIe siècle. C'est merveilleux, ce poème, le travail déjà que représente l'écriture de ce texte des mots, pour dire, pour faire ce portrait terrible de vieil homme moqué par les enfants. Et puis, bien sûr, comme Marcel Migosi, c'est une réminiscence d'il y a très longtemps. Et quand il a cette réminiscence, lui-même est vieux. Et il se dit, ben voilà la vengeance. Nous aussi, nous sommes des hommes vieux. Et l'instit, où montrer les mains dessus, dessous, puis avancer en silence. Où est cet homme-dieu sur l'estrade sonore, en blouse grise, avec le tout autour de lui? Carte de France et globe des aventuriers, et le tableau avec la phrase en lettres de craie d'or, morale. Tu te rends notre enfance et la règle de commandeur. Où est celui qui ne plaisantait pas? Ah, lorsqu'on le croisait dans la rue, coup au cœur, monsieur Jour, le béret à la main. Terrible, ce portrait de l'instituteur. Alors, je ne sais pas s'il parle aux nouvelles générations. En tout cas, il parle à la mienne. Montrer les mains dessus, dessous, puis avancer en silence, en entrer dans la classe. Moi, quand j'étais à l'école primaire, il fallait montrer les mains pour montrer qu'on avait les mains propres. Ça faisait partie de l'éducation. Et on n'entrait jamais en classe sans avoir montré qu'on avait les mains propres. Alors, les mains propres, c'est bien sûr les mains de l'hygiène. Et que l'on pouvait tenir les cahiers, les livres avec les mains propres, qu'on n'allait pas salir. Mais également, il y a quelque chose de très symbolique. Entrer avec, en montrant patte blanche, c'est-à-dire que en montrant les mains propres, il faut aussi que l'âme soit propre, que tout soit propre, pour pouvoir accéder à l'enseignement, accéder au savoir. Voilà. Et puis, il y a cet homme-dieu sur l'estrade sonore. Est-ce que les instituteurs sont encore des hommes Dieu, j'ai bien peur que non. Et quand je dis que j'ai bien peur, je ne suis pas sincère. Je sais que non, que on a bravé ça. On a bradé ça. Et c'est une faute considérable. Et alors autour de lui, il y avait le tout avec un T majuscule. La carte de France, le globe, etc. Voilà, on entrait dans le monde du savoir. On entrait dans le monde qui allait peut-être façonner notre vie, ce monde, avec en plus en lettres de crédor la morale qui était écrite sur le tableau, où maintenant nous vivons dans une société qui n'a ni foi ni loi, qui ne respecte rien, qui n'a plus de morale, qui a tout bazardé, voilà, et qui ne salue même pas l'instituteur quand on le croise, hein. On disait « Monsieur Bjour, le béret à la main ». Marcel Migosi, merci de nous avoir donné de si beaux textes. Qu'est devenu l'enfant du couple des mariés ? Faut se défendre, disait-il, quand on est pauvre, solitaire, fou. En blouse noire, il honorait son titre de bagarreur. Son œil descendait d'un tonnerre, sous ses cheveux en brosse dure. C'était un laisser pour pleurer dans l'arrière-cour d'un dimanche, sans visite. Les murs grandissaient, le portail renonçait au dehors. Faut serrer les mâchoires. Terrible. Voilà. Terrible, bon. Un laisser pour pleurer. On parlerait maintenant de harcèlement. Personnellement, je n'en ai pas connu, moi. J'ai eu cette chance de ne jamais être dans un milieu scolaire où on pratiquait ça. Le requin de la Ponnière, geste pas plus terrible que ceux du Mistral, où est-il allé mourir ou survivre, vieilli, sous cette tache de rousseur caramel? Lui, l'aimer, l'admirer, pour savoir grimper en vrai chat dans nos platanes. Comme il a dû changer sous un visage gris, ce bon copain qui refusait, nous avec lui, un âge d'adulte. Voilà. Ainsi pour semer d'abandonner Marcel Migosi, mais je le reprendrai dans une prochaine émission. Marcel Migosi, dont à lire tout ce que vous voyez de Marcel Migosi, il vous faut le lire. Marcel Migosi, des jours en s'en allant, aux éditions Pietra. Marcel Migosi, un pied toujours dans mon quartier, aux éditions La Porte. Et puis Marcel Migosi, rouge convalescent, suivi de l'invisible donation, celui-là vous le trouverez très très facilement aux éditions Tarabuste. Ainsi s'achève notre émission. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente semaine à l'écoute de Radio Occitane et nous vous disons à la semaine prochaine à 17h.